Bien bonjour. Bienvenue à ceux qui nous visitent, peut-être même pour la première fois. N'hésitez pas d'aller au kiosque, ça va vous permettre d'avoir un peu... vous pouvez même aller au kiosque, on a un petit cadeau pour vous. Et puis en même temps, si vous voulez avoir d'informations sur l'Église, n'hésitez pas, vous donnez votre nom et tout ça, et puis on va se faire un plaisir d'aller vous rencontrer pour raconter un peu l'information, qu'est-ce qu'on fait ici. Vous avez un café gratuit si vous êtes nouveau ici et vous visitez. On fait l'offre à ceux qui nous écoutent pour l'Internet. Vous avez juste, peut-être, il y a des gens un peu partout, Fermont et tout ça, qui nous écoutent peut-être. Mais il faudrait se déplacer, peut-être prendre un café ici. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont ici, les réguliers et ceux qui nous visitent. On est bien contents de vous avoir avec nous. Vous savez, il y a un musée en France, dans le sud de la France. Il y a un musée qui s'appelle le Musée du désert. En fait, ça commémore les souffrances des martyrs huguenots. On appelle ça le musée du désert. Pourquoi le désert? Parce que ça fait référence à une centaine d'années où il était illégal en France. Le protestantisme était illégal en France. Ça commençait avec Louis XIV qui voulait vraiment unifier son royaume. Il voulait littéralement se débarrasser du protestantisme de la France. Alors, il a révoqué l'édit de Nantes en 1865. L'édit de Nantes permettait aux protestants pendant plusieurs années d'avoir une certaine liberté, de pouvoir célébrer le Seigneur comme ils l'entendaient. Mais Louis XIV, finalement, a révoqué cela. Et puis, c'est devenu illégal pour les protestants de pouvoir se réunir et d'avoir leur réunion. En fait, même, tu étais considéré, si on t'attrapait, tu étais considéré quelqu'un qui célébrait finalement le Seigneur dans une assemblée protestante, tu étais considéré et jugé comme criminel. Et les femmes étaient placées en prison. On les jetait en prison pour le restant de leur vie. D'ailleurs, Dominique Peters me racontait entre les deux services qu'elle a un livre, un très, très, très vieux livre qui lui a été donné. Elle a visité le musée du désert en France, alors qu'elle était allée dans un camp chrétien. Et puis, elle racontait que le livre parle d'une femme, justement une des femmes qui avait été dans une cellule. Elle avait écrit sur le mur... persévérer et résister, je pense, résister. En d'autres mots, persévérer dans votre foi, continuer, même si c'est difficile, et puis on éprouve, beaucoup de douleur. Les pasteurs étaient exécutés et les hommes étaient condamnés à devenir esclaves et à être enchaînés pour le restant de leur vie sur des bateaux, sur des galères, et puis ramés sur les bateaux du roi. Et puis... le musée fait état de ça, tout le musée. Il y a une quinzaine de salles que vous pouvez vous promener et visiter à travers le musée. Puis ça donne toutes sortes de choses. Il y a à peu près 2000 objets que vous pouvez voir, des manuscrits, des documents authentiques, des noms aussi de gens qui ont été envoyés. Je pense qu'il y a 5000 noms d'hommes qui ont été envoyés justement sur des bateaux. On raconte que cette période-là, cet épisode, il y a à peu près entre 150 000 à 300 000, difficile de savoir exactement, mais qui ont carrément quitté le pays, et certains sont même venus ici, au Québec, la Nouvelle-France, et ils ont voulu s'échapper. Mais ceux qui restaient, ils résistaient, ceux qui restaient là, et puis ils voulaient être fidèles au Seigneur, à pouvoir rester là et répandre le message de l'Évangile, et qui se faisaient attraper, eh bien, voilà qu'ils étaient comme soit tués, soit jetés en prison, ou carrément envoyés dans les galères pour le restant de leur vie. Donc, c'est un temps très difficile, très sombre. D'ailleurs, vous pouvez voir, lorsque vous visitez les différentes salles dans le musée, à peu près 2000 objets, vous allez avoir toutes sortes de choses, des registres de mariage, parce que tu n'avais pas le droit de te marier entre protestants et tout ça. Donc, c'était fait en secret. Il y a des registres de baptême, des gens qui s'étaient fait baptiser, qui venaient de se convertir à Jésus-Christ, qui sont fait baptiser par immersion. Et c'est tout secret, tout ça, c'était clandestin. On se réunissait comme dans des églises clandestines. Et aussi, il y a une salle, parmi les 15 salles, il y a une salle que vous entrez, c'est la salle des galères, où vous pouvez voir, finalement, il y a même une réplique de galères, de bateaux, avec les rames. Il y a même des noms que vous pouvez voir sur l'Internet. Là, on peut voir ça, tous les noms des gens. Il y a à peu près 1200, je ne me souviens plus exactement, de noms de ceux qui ont été condamnés. Il y a 5000 noms qui sont là aussi pour ceux qui ont été envoyés dans pour le restant de leur vie enchaînés sur les bateaux. Et il y a une réplique de bateau avec les rames. Et à côté de la réplique du bateau, il s'est inscrit cette phrase. C'est un des prisonniers qui aurait dit ça, qui aurait prononcé ça. Il dit, « Mes chaînes sont les chaînes de l'amour de Jésus. » Et effectivement, s'il était là, c'est à cause de son amour pour Jésus et à cause de l'amour de Jésus-Christ qu'il avait eu envers lui pour le sauver et lui donner la vie éternelle. Donc, c'était pour ça qu'il était là. Et il n'a pas voulu renier sa foi, il a voulu être fidèle. Et ça lui a coûté finalement la vie, plusieurs martyrs, hein, plusieurs personnes sont mortes, sont décédées, sont mortes. Et ça a été une période très sombre pour les chrétiens évangéliques et pour les protestants, beaucoup de souffrance. Mais ça vous permet de comprendre ce que vivaient les premiers chrétiens. À l'époque du Nouveau Testament, c'est ça qu'ils vivaient. Si on te prenait à proclamer, à répandre le message de l'Évangile de Jésus-Christ, on venait chez vous, on prenait tes choses, il n'y avait pas la loi qui te protégeait, la loi ne te protégeait pas. Donc on pouvait vider ta maison, prendre tes biens carrément, te tuer, t'exécuter. On a d'ailleurs le témoignage de l'apôtre Paul, avant sa conversion, il tuait du monde, il jetait des gens au cachot. Et c'était très difficile pour des chrétiens. Alors, tu as cette période très sombre. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu va inspirer l'apôtre Pierre à écrire une lettre à ces chrétiens qui sont dispersés un peu partout, qui souffrent et qui sont victimes de ces souffrances, de ces persécutions. Et le but de sa lettre, d'ailleurs, le but avoué est très clair. Il le dit dans son dernier chapitre, chapitre 5, comme on l'a vu dernièrement. Il dit, « Moi, je veux vous encourager. » Je veux vous encourager à garder l'espoir, à vous accrocher au Seigneur, à ne pas abandonner la foi, de ne pas lancer la serviette, de continuer et persévérer. Et il donne les raisons et tout ça. Toute la lettre est bâtie autour de cela, finalement, d'inspirer l'espoir et nous donner de l'encouragement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux étaient victimes de persécutions, mais il y a d'autres facteurs qui nous donnent la souffrance dans notre vie. Ça peut être toutes sortes de choses. J'entends des parents parler des fois, ils souffrent. Soit dans leur mariage, il y a beaucoup de souffrance. Nous sommes des êtres sensibles, émotifs. On n'est pas fait de bois. Et on est touché par ce que vivent aussi nos enfants, ou soit notre mariage, peut-être même au travail, où on souffre d'injustice. C'est très difficile. Il y a des gens qui vivent toutes sortes de stress et de préoccupations aussi au travail. Moi, j'ai connu un homme d'affaires, à un moment donné, il est décédé. Avant de mourir, il m'a dit, Normand, il dit, je te le dis, je meurs. Et si je meurs, il était mourant, il était dans son lit de mort, il m'a dit... Ce qui a causé ma mort, c'est le stress. Il gérait une belle grande compagnie, tout ça. Il a beaucoup de succès en affaires, fait des millions, mais ça l'a tué, comme il disait lui-même, de ses propres paroles. Donc, on peut vivre toutes sortes d'expériences, toutes sortes de choses qui nous rendent vulnérables et qu'on souffre. On vit dans la douleur. Alors, la lettre de Pierre, qui est courte, est une lettre tellement pertinente pour non seulement lorsqu'on vit la souffrance, mais ça nous prépare aussi. Parce que si ça va super bien dans votre vie en ce moment, et on le souhaite que ça aille bien, on veut se préparer pour ces jours qui seront peut-être difficiles, un peu plus difficiles, qui vont nous causer toutes sortes de fardeaux et vraiment d'épreuves et de douleurs. Donc, on veut se préparer. La lettre de Pierre est vraiment pertinente. Que vous soyez dans la souffrance ou non, ça nous prépare aussi et ça nous donne des armes, des outils, ça nous donne des munitions, justement, pour garder l'espoir dans ces moments où on se sent un peu dépassé par des événements autour de nous. Donc, ça, c'est le but de la lettre. Alors, c'est la raison pour laquelle Pierre va commencer sa lettre, déjà dans les premiers versets, 1 Pierre 1, où il va parler même de la Trinité. Il va commencer avec les trois personnes de la Trinité et il est en train de nous dire de ne pas perdre courage. Parce que vous savez, il y a une chose qui se passe lorsqu'on souffre, lorsqu'on vit des épreuves, on a tendance à penser que Dieu est loin. Il est distant, il ne se soucie pas de nous. C'est une des choses que j'entends lorsque je rencontre des gens et qui vivent de l'épreuve. Écoute donc, que fait Dieu? Et on aura tendance à penser que Dieu ne se soucie pas de nous, qu'il ne se préoccupe pas de ce qu'on vit. On ne comprend pas les silences de Dieu parfois. Alors, Pierre commence en rappelant, écoutez, n'oubliez pas une chose. Il commence avec la Trinité. Il dit, Dieu le Père a choisi de déverser son amour sur vous. Déjà, avant la fondation du monde, il avait choisi de déverser, même qu'on n'était pas aimable, en dépit de nous, de nos attitudes, de l'avoir tassé tout ça, malgré cela, il a déjà choisi de déverser son amour pour nous. Ça, c'est Dieu le Père. Ensuite, Pierre passe avec Dieu, le Saint-Esprit. Il dit, Dieu ne gaspille jamais les souffrances. Tu penses que Dieu est absent et qu'il est silencieux, mais Dieu va te prendre et va peaufiner ton cœur et ton caractère de sorte que tu vas sortir de la fournaise de douleur meilleur que tu étais auparavant. En d'autres mots, il y a deux façons de passer à travers la fournaise de la douleur. Deux façons. Tu peux sortir de la fournaise de l'épreuve brisée en cendres. Ou tu peux sortir comme de l'or encore plus pur, plus beau, plus précieux, plus magnifique. Et Pierre veut nous montrer, veut nous accompagner à travers notre souffrance pour nous emmener, nous aider à passer à travers la fournaise de la douleur, d'épreuve, puis qu'on puisse sortir comme de l'or pur, encore mieux que ça. Comment devenir meilleur? Et Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il veut se servir de nos douleurs et nos épreuves pour tranquillement nous façonner et nous rendre meilleurs. Alors, le Saint-Esprit fait cette œuvre-là présentement en nous. Alors, on pense que Dieu parfois nous oublie pas. Il est là déjà à l'œuvre à travers cette période même difficile. Alors, Dieu le Fils aussi. Alors, non seulement Dieu le Père a choisi de t'aimer, Dieu, le Saint-Esprit, veut se servir de ces temps d'épreuve pour nous faire grandir, mais aussi Dieu le Fils nous a réconciliés. C'est lui, grâce à lui, qui nous réconcilie avec le Père pour rétablir une relation avec Dieu. Et il était un avocat auprès du Père et il intercède présentement pour toi. Alors, si tu t'imagines, si tu es là en ce moment, tu es dans une saison difficile, rappelle-toi que Jésus est là au ciel et il intercède en ce moment pour toi, pour que tu persévères, tu continues, que Dieu t'entoure de sa grâce. C'est son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, le Fils. Et lui aussi veut te rendre encore meilleur. Alors, Pierre continue en nous donnant une perspective différente de l'épreuve. Il dit, on a premièrement ce qu'on a besoin. On a besoin vraiment d'avoir une nouvelle perspective au niveau du salut, mieux comprendre tout ce qui se passe avec la rédemption et le salut. Ça va nous aider à retrouver de l'espoir dans ces moments difficiles, lorsqu'on passe à travers ce tunnel qui est sombre et qui est difficile. On a besoin aussi d'avoir plus de clarté sur les souffrances. Et on a besoin d'avoir aussi une meilleure clarté, une meilleure perspective des silences de Dieu. Que même si tout semble, Dieu semble distant, il est là et très actif. Pierre vient donc de nous donner, on l'a vu ensemble au cours des dernières semaines, 12 versets, les versets 1 à 12, sur lesquels on peut s'appuyer et qui vont faire toute la différence pour ce qui s'en vient. On va donc commencer au verset 13, 1 Pierre 1, verset 13, alors que Pierre prend une toute autre direction. Il nous a préparé dans les 12 premiers versets. On avait besoin des 12 premiers versets. C'est le fondement, c'est la fondation. Et il va bâtir le verset 13 et ce qui va suivre sur les 12 premiers versets. Et j'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, si vous avez votre Bible avec vous, et on va lire 1 Pierre 1, à partir du verset 13, et on va lire jusqu'au verset 21. D'accord? 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvu de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la création du monde. Il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, nous te prions que ce matin, ton Esprit Saint puisse éclairer nos cœurs et que l'on comprenne et que l'on saisisse bien la portée de ta révélation, qui est la parole de Dieu. Seigneur, il y a des gens ici qui sont hypothéqués soit par la santé, par l'épreuve, soit par un mariage difficile, douloureux, soit par le travail ou les enfants. Et nous te prions pour eux, pour elles, que tu puisses les entourer de ta grâce, mettre un baume sur leur cœur, les consoler, les fortifier pendant qu'ils passent par cette heure d'épreuve. Et pour nous, Seigneur, qui allons peut-être mieux, nous te demandons que ton Esprit Saint puisse insérer cette parole profondément ancrée dans notre cœur, afin que lorsque des jours difficiles arriveront, nous puissions nous rappeler de ne pas perdre courage. Que ton Esprit parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Ce passage commence avec le verset 13 qui dit « C'est pourquoi ». Juste deux mots, en fait, c'est un mot dans l'original. « C'est pourquoi ». Maintenant, Pierre vient de passer 12 versets où il nous raconte comment le salut a changé qui tu es. À partir du verset 13, Pierre nous montre que le salut change comment tu vis. Donc, 12 versets qui montrent comment le salut change qui tu es, et à partir du verset 13, montrent, et jusqu'à la fin de la lettre, en fait, comment on vit maintenant, comment on vit différemment d'ailleurs. Alors, toute ta nouvelle façon de vivre est ancrée dans cette expression-là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. À partir du verset 13, ça change. Les 12 premiers versets nous préparaient à arriver à ce verset 13, c'est pourquoi. C'est pourquoi, ou à cause de cela, Pierre est en train de dire, à cause de tout ce que je viens de dire dans les 12 premiers versets, à cause de tout l'impact de cela, en conséquence, étant donné tout ce qui s'est produit au jour du salut, tout ce que Dieu a fait, comment il a choisi de t'aimer, de déverser son amour, de te prouver son amour en envoyant son Fils sur la terre, mourir sur la croix afin de prendre sur ses épaules cette dette, cette culpabilité qu'on avait envers Dieu. Il a pris cela sur ses épaules et il est mort pour payer cette dette-là afin de te réconcilier envers Dieu. À cause de cela, à cause que ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, non seulement te purifie de tes péchés, il est venu sur terre aussi afin que l'Esprit Saint vienne habiter et vivre dans ton cœur et dans ta vie. À cause de tout cela, les 12 premiers versets, verset 13, c'est pourquoi. En d'autres mots, ça a un impact, tout ça. Tout ce que Dieu accomplit dans les 12 premiers versets a un impact sur ta façon de vivre. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus du tout le même. Le Saint-Esprit habite dans ton cœur, dans ta vie. Tu n'es plus le même. Alors, dans les 12 premiers versets, il parle du salut. Il dit, laissez-moi vous rappeler, parce que n'oublions pas, ce sont des gens qui souffrent. Il dit, laissez-moi vous rappeler les trois personnes, là. Laissez-moi vous rappeler comment Dieu le Père, bien malgré vous, vous avez un Dieu qui sait que vous allez tomber. Il sait que vous ne serez jamais parfait, sinon qu'au ciel. Il sait tout ça, et malgré ça, il a choisi de vous aimer. Maintenant, Pierre comprenait très bien ça. Pierre le savait. Mon ami Pierre, s'il y avait une personne qui pouvait parler de ça, de la grâce de Dieu, c'était bien Pierre. N'oublions pas Pierre. Pierre fait des grandes choses, rendues dans Actes, mais au début, n'oublions pas, lorsqu'il était les quelques années avec Jésus sur terre, Pierre a fait des gaffes, des grosses gaffes. N'oublions pas, c'est Pierre. Lorsque Jésus a annoncé qu'il devait aller à la croix et souffrir et mourir sur la croix pour nous sauver, Pierre a dit non, on ne va pas là. Il a essayé de changer le cours de l'histoire. Il a essayé de changer le destin de Jésus pour qu'il n'aille pas à la croix pour que son sacrifice ne soit pas offert. Imaginez, ça c'est Pierre, là. Tu sais, c'est comme, Pierre, tu es dans le champ, là. Et non seulement ça, Pierre, finalement, il a compris, alors là, il a dit, un petit peu compris, alors finalement, il a dit à Jésus, écoute, tu peux compter sur moi maintenant. Tu peux compter sur moi s'il t'arrive de quoi. Il t'arrive à rien, je vais prendre ta défense, moi, je vais toujours rester fidèle, coûte que coûte. Moi, là, je vais être fidèle. Je vais être ton héros. Vous savez ce qui s'est passé? Ça n'a pas pris de temps. Lorsque Jésus est fait arrêter, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Par trois fois, mon ami. Il a renié le Seigneur. Il a renié Jésus. Il dit, lui, donc, il ne connaît pas. Il ne connaît pas Jésus. Non. Oui, tu étais avec lui. On t'a vu. Oui. Tu ressembles pas mal, là. Tu as des cheveux, là. Ben, je ne sais pas s'il avait des cheveux blonds, tout ça, mais il dit, je connais ta coupe. Je connais ta coupe. Non. Non, tu te trompes. C'est un gars qui me ressemble. Pas moi. Ah, imagine-toi. Lui comprenait. Pierre comprenait. C'est la raison pour laquelle les gens qui souffraient, là, lorsqu'ils ont entendu que Pierre leur écrivait une lettre, mon ami, ils ont couru à l'église pour entendre la lettre, parce qu'ils devaient lire la lettre. Ils disent, écoute, on a reçu cette semaine une lettre de Pierre. Eux autres connaissaient Pierre. Ils savaient. Hey, ça, c'est le gars qui nous comprend. Lui, il sait qu'on n'est pas parfait, puis lui, il nous comprend parce qu'il est pas mal comme nous autres. On n'est peut-être pas aussi bête que lui, là, mais honnêtement, là, il va nous comprendre. Alors, les gens couraient pour l'entendre, cette lettre-là qui va être lue. Et Pierre peut certainement dire, écoute, Dieu, là, en dépit que tu n'es pas parfait, tu ne seras jamais parfait, a choisi de t'aimer et de déverser son amour sur toi. Amen. Il dit, regardez ma vie. Laissez-moi vous rappeler que vous avez aussi le Dieu, le Fils. Vous avez Dieu le Père, vous avez Dieu le Fils. Il est venu sur terre pour mourir sur la croix afin de payer le prix pour vous autres, pour votre péché, de prendre sur lui tout le jugement que Dieu allait prononcer sur vous autres et sur moi. Et quelles qu'aient été les demandes de Dieu, Jésus est intervenu, puis il a accompli, puis il a dit, garde, je vais le faire. Et lui a rencontré toutes les demandes de Dieu pour nous autres. Ensuite, Pierre dit, laissez-moi vous parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Jésus est mort non seulement pour vous purifier et vous réconcilier avec Dieu, mais il est venu afin que l'Esprit Saint vienne en toi maintenant, puis que ce soit lui qui accomplit cette transformation pour te rendre meilleur de plus en plus. Tu vas être meilleur demain que tu l'es. Hein? Plus, c'est quoi l'expression là? Plus qu'hier, moins que demain. C'est ça, mais c'est ça. Hey, dans le Seigneur, c'est ça. Lorsque tu marches avec Dieu, tu le laisses agir dans ta vie, c'est ça qui va arriver. Tu vas être meilleur demain. Ma femme dit amen à ça. Je vais être meilleur demain, chérie. Je vais être meilleur. Tu vois, je vais être un meilleur mari demain. Vous couperez ça de la cassette de l'enregistrement, là. Hey, on célèbre cette année 40 ans de mariage, imaginez. Elle a survécu les 40 ans. Bien, merci beaucoup. Non. Ouais, peut-être. Hey. Et Pierre est en train de dire, écoute, là, le Seigneur est là dans ta vie. Là. Tu ne pries pas un Dieu distant, là, lointain, abstrait, tout ça. Il s'agit d'un Dieu réel. Alors, le salut ne vous a pas seulement sorti de la terre pour vous emmener au ciel. Non, ça a sorti Dieu du ciel pour venir habiter dans ton cœur. Demeurer ici dans ton cœur. 12 versets. C'est ça qu'il dit dans les 12 versets. 12 versets, et ça, c'est le fondement. C'est vraiment là, la fondation. Il dit, c'est pourquoi voici ta nouvelle vie. Vois-tu? Maintenant, est-ce que ces 12 versets sont produits chez toi? Vois-tu, l'erreur de certaines personnes, c'est qu'ils sautent tout de suite au verset 13, où on voit la vie chrétienne, comment est-ce que ça a l'air tous les jours. What does it look like? Puis là, ils essaient de faire des œuvres, pour se rapprocher de Dieu. Mais ils n'ont pas passé par les 12 versets. Les 12 premiers versets, c'est la nouvelle naissance. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Il montre son amour. Et qu'est-ce que Jésus est allé à la croix accomplir pour toi? Mais si tu n'as pas dit oui à Jésus, tu n'as pas placé ta foi en Jésus pour avoir ce salut, la vie éternelle, pour te réconcilier avec Dieu, si tu n'as pas dit oui, je crois, Jésus, que tu es allé à la croix pour prendre mes péchés sur tes épaules afin de me sauver par la foi. Si tu n'as pas passé par les 12 premiers versets, va pas au verset 13. Tu vas être découragé, tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir de courage, parce qu'il faut te passer, premièrement, par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance permet que tu puisses accomplir le verset 13. Sans ça, tu vas être écrasé. Toujours. Et c'est ça la religion. Hein? Les gens de la religion, ils font des choses, des œuvres. Ils font des bonnes choses. Mais plusieurs le font pour gagner leur ciel. Non. Tu n'as pas envie de gagner ton ciel. Jésus l'a gagné pour toi. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Jésus a gagné le ciel pour toi, il est allé à la croix. Il n'y a rien que tu pourrais faire qui va se mesurer à ce sacrifice parfait-là. Parce que c'est absolument impossible de gagner son ciel. Alors, il faut que tu passes par les 12 premiers versets. Et quand tu arrives au verset 13, Pierre est en train de dire, voici ce que ça a de l'air. Voici ta nouvelle vie. Ta nouvelle vie a été gagnée par Jésus-Christ. L'Esprit Saint vit maintenant en toi pour te faire vivre maintenant cette nouvelle vie. Regarde à partir du verset 13, c'est pourquoi maintenant voici ta nouvelle vie. Regarde que ça a de l'air. Tu n'es plus le même. Tu es changé. Alors, vis plus pareil. Et ça, c'est son point. Chaque chrétien a un chrétien né de nouveau qui a passé par cette expérience des 12 premiers versets, a un avant Jésus-Christ, puis après Jésus-Christ. OK? Alors, à partir du verset 13, Pierre nous montre qui tu es maintenant, ce que tu es en Jésus-Christ, maintenant que tu as reçu la nouvelle naissance. Tu n'es plus la même personne. Donc, les 12 premiers versets te préparent à vivre le verset 13. Il prépare à vivre le « c'est pourquoi ». Ce qui suit, ça va être le salut. C'est le salut. Ce qui suit le salut, en d'autres mots. Ce qui vient après avoir obtenu la vie éternelle. Ce qui découle de la nouvelle naissance. Le fruit de tout ce que Dieu a fait dans ta vie te permet maintenant de vivre le « c'est pourquoi ». Du verset 13. Le Saint-Esprit vit maintenant en toi, en nous. Alors, il va changer ta façon de penser, il va changer tes aspirations, tes désirs et tout ça. Alors, comment cette nouvelle vie en Jésus est différente et comment puis-je avoir de l'espoir face à ces moments tellement éprouvants? Eh bien, Pierre le dit, il dit « Suivre Jésus consiste premièrement à vivre à la lumière d'éternité. » Et ça, c'est vraiment différent, là. En d'autres mots, tu vis à la lumière de la fin. Regarde ce que ça dit au verset 13, ça dit « Tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre. » Alors, avec l'Esprit Saint, vous pouvez maintenant vous maîtriser, maîtriser vos désirs. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va te donner le pouvoir d'accomplir ça. Maintenant, voici cette expression-là. Ça vient du second 21, S21, qu'on appelle second 21. C'est la traduction qu'on utilise ici. Et c'est celle qu'on donne aux nouveaux qui nous visitent. Mais il y a d'autres traductions très bonnes. Et laissez-moi vous donner comment c'est traduit dans d'autres traductions. La Genève, par exemple. L'édition de la Genève dit ceci. Alors, dans la seconde 21, ça dit « Tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre. » Dans la traduction Genève, ça dit « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. » Pas évident, ça. « Saignez les reins de votre entendement. » La Jérusalem, la Bible de Jérusalem dit « L'intelligence en éveil, soyez sobre. » Français courant dit « C'est pourquoi tenez-vous prêt à agir, gardez votre esprit en éveil. » Et ça reflète vraiment l'image de l'original. Maintenant, moi, je suis bien content du travail colossal des traducteurs qui aident à mettre en mots d'aujourd'hui, 2017, des concepts, des images et tout ça, des mots d'autrefois. Par exemple, si vous prenez cette Bible, la version second 21, c'est écrit en bas, l'original avec les mots d'aujourd'hui. Ça nous aide à comprendre. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Prenons l'exemple de cette expression-là. Pourquoi la Genève dit ceci? Saignez les reins de votre entendement. Bien, ça fait partie d'une image d'autrefois. Alors, imaginez, moi, si ce n'était pas traduit en mots d'aujourd'hui, moi, j'irais voir mon voisin et je dirais, écoute, je veux que tu saches une chose. Hein. Nous, les chrétiens, là, on saigne les reins de notre entendement. Là, je peux voir mon voisin. OK. Salut. Étrange. Mais pour les gens du Nouveau Testament, ce n'était pas du tout étrange. Hey, c'est une expression tous les jours. On servait de ça constamment, cette expression-là. Donc, ils ont vraiment bien traduit. C'est super la façon qu'ils ont traduite, cette expression-là. Mais ça revient à une image. Parce que, voyez-vous, dans le Nouveau Testament, à l'époque de l'Empire romain, tout le monde se promenait en grande tunique jusqu'à la cheville, à peu près. Des longues tuniques. C'est pas que les pantalons n'étaient pas inventés. D'ailleurs, j'ai appris qu'un archéologue a trouvé un vieux, vieux pantalon qui remonte à des centaines d'années avant Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est des gens qui faisaient du cheval, qui ont inventé les pantalons. Les archéologues ont même trouvé un de ces pantalons-là. Mais dans l'Empire romain, on se promenait en tunique, hommes et femmes. Alors, qu'est-ce qui arrivait quand tu voulais travailler? Assez difficile d'aller travailler comme ça. Imagine-toi, tu t'en vas en guerre, puis tu as ton épée, puis là, tu veux te battre. Hein? Je danse à peu près pareil. Je suis pas très bon en danse. C'est à peu près comme ça, là. Alors, maintenant, tu veux te battre. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Tu saignais les reins. Ça voulait dire quoi? Tu prenais. Ou même, par exemple, travailler dans un champ. Tu veux travailler dans un champ. C'est pas évident de travailler dans un champ. Tu fais comment? Comment tu fais ça? Alors, tu prenais la tunique, OK, jusqu'en bas. Tu prenais, tu l'envoies en arrière, passe à travers, en dessous de la ceinture. Tu l'emmènes deux bouts, donc en avant, puis tu l'attaches. Tu l'attaches comme ça. Donc, là, ça arrive à peu près ici. C'est comme des shorts. Hein? Fait que, allez, des shorts. Et puis là, tu pouvais te battre, tu pouvais aller en guerre, te défendre, tu étais prêt, tu étais, en d'autres mots, saigner les reins, quand tu te plaçais comme ça, tu étais prêt à agir. OK? Et c'est ça que Pierre est en train de nous dire. Faut que maintenant, faut que tu réalises que maintenant, tu sois très conscient et que tu sois prêt à l'action. Tu sois très conscient, là. Parce qu'il y a un combat spirituel qui se passe. Le diable veut te faire tomber, veut te faire éloigner, puis t'as même pas besoin du diable, dans le fond, juste qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, tout le divertissement et tout ça, c'est tellement facile de nous divertir au point qu'on ne se soucie plus des choses de Dieu. On peut se laisser détourner tellement facilement. La TV, tout ça, on peut passer des heures là-dedans, tout ça, dans ce monde-là, et puis à un moment donné, tu t'aperçois que les heures passent, puis finalement, il y a des bonnes choses, mais à un moment donné, c'est comme ça prend tellement de temps que ça te détourne tranquillement, subtilement, de Dieu. Et non seulement ça, le diable, lui, est là aussi, qui veut te faire tomber. D'ailleurs, dans la même lettre, dans 1 Pierre 5 ou 3, un peu plus loin, en tout cas, ça dit que le diable rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il va dévorer. Donc, le diable même veut que tu t'éloignes du Seigneur. On est dans une guerre spirituelle, c'est pour ça que Pierre dit, premièrement, ça commence, là, ta nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est faut que tu sois conscient de ce qui se passe. Que tu sois alerte, éveillé, prêt à l'action, prêt à agir. Alors, saindre les reins, c'est ça que ça veut dire. Et Pierre nous dit, grâce aux 12 versets qui ont changé ta vie, grâce à Dieu qui t'a aimé, qui a envoyé son Fils pour mourir pour toi, non seulement pour te pardonner, mais pour te purifier et pour te permettre d'avoir une relation avec Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse vivre et demeurer en toi. C'est pourquoi, retrousse tes manches. C'est le temps de bouger, d'éveiller, d'être conscient. C'est le temps de passer à l'action. Et c'est pourquoi cette expression-là, c'est une façon de dire, c'est le temps qu'il faut être réveillé et se mettre à l'œuvre, saigner nos reins. En d'autres mots, prépare tes pensées. Ça commence avec nos pensées. Aie la maîtrise de soi, sois sobre. C'est la même idée, c'est d'avoir les pensées claires. Le mot « sobre », on sait ce que c'est le contraire, dans le fond, c'est l'antonyme, c'est le contraire de Yves, un gars qui est pacté, qui est chaud, ou une femme, ou un homme, tu sais, quelqu'un qui est... As-tu remarqué que les gens qui sont Yves ne prennent jamais des bonnes décisions? D'ailleurs, même, on commence à être nerveux lorsqu'une personne qui est Yves conduit une voiture. On commence à être nerveux, là. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ceci, de dire « Ouf, hey, j'ai une décision tellement importante à prendre, une grosse décision, là. J'ai besoin d'avoir les idées, là. Hey, il faut que je prenne une décision, donc je vais aller me prendre un 12 bières en ligne pour mieux réfléchir. » Tu as entendu parler de ça? As-tu déjà entendu quelqu'un dire ça? Ça ne nous aide pas. Ça n'aide pas, là, ma réflexion, à prendre des décisions importantes. Tu ne veux pas prendre les plus grandes décisions de ta vie après 12 bières. Certainement pas. Et là, on parle de l'ivresse, mais c'est pas de ça que ça parle. Le mot va plus loin, ça s'étend, ça va. On peut s'enivrer avec toutes sortes d'activités, de préoccupations dans la vie, au point que finalement, on n'est plus aussi alerte des choses spirituelles. Ça, tranquillement, ça se tasse. On se tasse de nos vies, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut même être l'amour. Être tellement préoccupé par l'amour qu'on veut trouver quelqu'un, et tout ça, on veut se marier, tout ça, absolument, qu'à un moment donné, on va commencer à faire des compromis. Puis on va laisser ça de côté. Vois-tu? C'est ça, pas agir sobrement. C'est ça que ça veut dire. C'est de plus agir avec la clarté, la sagesse de Dieu. Dans toutes les moindres, même le succès, ta carrière. Maintenant, on espère, tu as une belle carrière, du succès, il n'y a rien, même la Bible dit, vas-y à fond, aie de la belle ambition, vas-y. Mais même là, ça peut arriver au point où il y a comme un déséquilibre, où c'est juste ça, et ça devient la priorité. Finalement, ça devient une idole. Même des bonnes choses. Alors, Pierre prend cette image-là. Étant donné ce que Dieu a fait, il est temps vraiment de retrousser nos manches. On a besoin d'avoir des pensées claires. C'est sérieux ce qui se passe autour de nous. Je veux que vous sachiez ce que vous aurez l'air maintenant que vous avez le salut, les 12 premiers versets. Parce que n'importe qui peut s'appeler chrétien, c'est facile de dire, je suis chrétien. Maintenant, Pierre dit, je vais vous montrer comment suivre Jésus. Parce qu'il y a une différence, s'appeler chrétien et suivre Jésus. Vraiment différent. Et ça, c'est d'être un disciple. Laisse-moi te montrer comment ta façon de vivre va être différente. Ça commence au verset 13. Laisse-moi te montrer comment te préparer, comment être prêt à agir. Et verset 13 continue en disant, « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et ça, c'est la clé. C'est la troisième fois que Pierre va mentionner le mot « grâce ». Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? « Vis à la lumière de l'éternité. Vis à la lumière de la fin glorieuse qui nous attend. » Ne pense pas juste aux circonstances en ce moment qui ne vont pas bien dans ta vie. Vis à la lumière de cette fin glorieuse que le Seigneur a préparée et qui nous attend. Alors ça, il faut être alerte, il faut penser comme ça, nous habituer à voir la vie comme ça, à voir cette lentille, de voir tout ce qui se passe autour de nous à travers la lentille de l'éternité. C'est ça le point ici. Regardez ce qui s'en vient. Regardez à l'éternité. Lorsque Jésus va revenir, lorsque Jésus va apparaître. Alors, suivre Jésus consiste d'abord et avant tout à vivre à la lumière de l'éternité. Alors, si tu veux suivre Jésus aujourd'hui et braver la tempête, quand c'est difficile, vis à la lumière des jours glorieux qui t'attendent. Alors, cette nouvelle vie en Jésus affecte notre manière de penser. Nous vivons à la lumière d'éternité. Mais cette nouvelle vie en Jésus affecte aussi notre manière de vivre. Nous vivons à la lumière de la sainteté de notre Père céleste, parce que maintenant nous sommes ses enfants. Voyez ce que dit verset 14, « En enfants obéissants, alors ont été adoptés dans sa famille, c'est eu des résultantes, c'est un des résultats des 12 premiers versets, nous sommes maintenant adoptés dans sa famille, nous faisons partie de la famille de Dieu, Dieu est notre Père céleste, nous sommes ses enfants. » Alors, en enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint. Alors, compte tenu des 12 premiers versets et toute l'œuvre que Dieu a fait pour faire de vous ses enfants, pour vous adopter, lui là, qui vous a appelé, qui a tout fait ça, qui a tout préparé ça, il est saint. Alors, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. Alors, Dieu est saint. Hein, n'est-ce pas? Trois fois saint, dit les Écritures. Il est pur. Saint veut dire séparé, différent, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de tâche, pas d'impureté. Alors, Dieu est tellement parfait. Il est parfait en amour, parfait en justice, parfait en compassion, mais parfait en justice aussi, parfait en compassion, qu'il ne pouvait tolérer le péché. Alors, il devait juger le péché. Parce que Dieu est saint. Exode 15 nous dit « Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? » Voyez-vous, la bonté de Dieu est parfaite, sa justice est parfaite et son amour est parfait. Et est-ce que ce n'est pas tout ce qu'on veut au fond de nous? Qui veut un gouvernement qui est partiellement croche, partiellement injuste? Personne ne veut ça. Quelle fille va vouloir un gars malhonnête? On cherche toutes l'amour parfait. Pas vrai? Au fond de nous, c'est ça qu'on recherche. Eh bien, seul Dieu est parfait en amour. Il est amour. Sa justice est parfaite. Il n'y a pas de compromis. Sa compassion est parfaite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, la plus grande évidence de la sainteté de Dieu, ce n'est pas de se séparer de nous autres, les amis. Ça parlerait de sa sainteté. Mais il y a une évidence encore plus grande de sa sainteté. C'est qu'il ne pouvait tellement pas tolérer le mal et le péché. Savez-vous ce qu'il a fait? Regardez bien ceci. La plus grande évidence de la sainteté de Dieu n'est pas qu'il se soit séparé de nous, mais c'est qu'il est entré dans notre corruption, dans notre péché, afin de les prendre sur lui pour les faire disparaître une fois pour toutes. Amen. Ça, c'est le summum de la preuve de la sainteté de Dieu. Parce qu'il savait que c'était le seul moyen de faire disparaître le péché et la corruption. D'envoyer son propre fils. Alors, l'amour de Jésus-Christ a absorbé notre impiété, notre péché. Il a souffert la mort pour le péché, la puissance. Il a conquis le péché en ressuscitant d'entre les morts. Pierre nous dit que la sainteté de Dieu nous interpelle à répondre puis à réagir. En d'autres mots, la vie que nous vivons devrait refléter le Dieu que nous aimons. D'accord? La vie que nous vivons devrait refléter le Dieu que nous aimons. Et c'est là que Pierre nous voit. Pierre nous donne deux motivations pour marcher dans la sainteté. Premièrement, nous sommes des enfants de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Verset 14. Quelle nouvelle identité! Nous voulons marcher dans la sainteté car nous avons été adoptés, nous sommes les enfants de Dieu. Pierre nous voit réaliser toute la grâce que Dieu nous a faite. Il est notre Père céleste, il est parfait, un Père parfait. Alors agissons comme des enfants obéissants. Avant, on marchait dans la direction. On s'en allait là, puis on menait notre vie comme on le voulait, comme on l'entendait, c'était comme, tiens, on s'en va là-bas. Dieu, par sa grâce, sa bonté, a envoyé son Fils sur la croix afin de nous donner une nouvelle nature, afin de nous changer complètement de bord, complètement changer de direction. Alors là, Pierre est en train de dire, regarde, tu es une nouvelle créature maintenant, tu es un enfant de Dieu, marche dans cette direction-là. Laisse Dieu diriger ta vie, vas-y, marche plus là-bas. C'est à peu près comme l'image de tu veux adopter quelqu'un, tu veux adopter un enfant. Ma fille a adopté des enfants, quelques enfants. Hey, c'est tellement long le processus d'adoption, là. C'est malade, là. C'est tous les papiers, ça coûte cher, puis les papiers, documents, etc. La DPJ qui s'en vient, etc. Faire des entrevues, tout ça. Les entrevues des frères, sœurs, tout ça, puis, etc. Voir si vous êtes, etc. Puis ça. Je peux comprendre, on veut protéger, je comprends très bien ça. Vous allez finalement, après 2 ans, vous recevez un téléphone, vous allez au pays. Finalement, ma fille est allée en Ukraine chercher les enfants, puis tout ça. Puis même là, tu arrives là-bas, puis tu ne pars pas que l'enfant, là. Là, c'est tout un autre processus, puis tout ça. Puis là, tu as les visas, là, il faut que tu passes devant le juge qui accepte, qui dise oui officiellement, ils sont tes enfants, etc. Puis là, tu les emmènes parce que tu as tellement à cœur, tu vois, ma fille est allée dans l'orphelinat, elle voulait tous les adopter, elle savait que statistiquement, les filles qui étaient dans l'orphelinat, c'est vraiment pas rose là, là-bas. Et puis, tu as des orphelinats, tu sais, après 18 ans en Ukraine, là, ils te sortent là, dans la rue, que tu sois un gars, une fille, ils sortent dans la rue. Les filles, 80%, je pense, si ma mémoire est bonne, je me souviens plus des pourcentages, mais très élevés, tombent dans la prostitution. Les gars, ça devient comme des gens qui volent et tout ça pour survivre. Et c'est vraiment pas rose. Et tout d'un coup, tu sais, t'as pas de mère, t'as pas de père et tout ça, et tout d'un coup, tu es là. Puis finalement, tu as une famille qui t'adopte. Tu as un papa, tu as une maman. Je fais penser à Liam, le petit Ukrainien, qui a dit ça, c'était le plus beau cadeau que je ne pouvais pas recevoir à Noël. J'ai une maman. Alors, imagine-toi donc que, là, tout d'un coup, tu es adopté, puis l'enfant dit, moi, ça me tente de retourner à l'orphelinat. Ça me tente de retourner là, je veux retourner là-bas, dans toute cette vie-là, sachant que, regarde, où est-ce que tu vas aboutir éventuellement. Ça aurait-tu de l'allure? Pense, tu as été adopté en Jésus-Christ. Pourquoi retourner à notre ancienne vie, retourner dans cette direction-là, puis aller là-bas avant d'être adopté? N'est-ce pas? Tu veux vraiment retourner à ça? Pourquoi retourner à ça? Regarde la nouvelle vie. Regarde le retour glorieux de Jésus qui s'en vient, puis regarde la fin glorieuse qui t'attend. Va dans cette direction-là. Marche dans cette direction-là. Deuxième motivation, c'est que nous sommes des étrangers sur Terre. Pierre va se servir de cette expression-là quelques fois dans sa lettre. Il dit au verset 17, ici même, c'est comme un père à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir. C'est plutôt le début des versets qui dit, il s'adresse la lettre à ces gens, à ces chrétiens qui sont dispersés. Le mot là, dans l'original, c'est étranger. Il va revenir un peu plus loin au verset, dans le chapitre 2 d'ailleurs, il va dire, bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre. Alors, c'est cette image que nous ne sommes pas chez nous ici. C'est temporaire, on est ici, c'est vraiment temporaire. Notre foyer nous attend. C'est un peu la même image, le même mot d'ailleurs, nous attend. Nous sommes en exil ici. C'est à peu près comme les Juifs dans l'Ancien Testament, que leur chez eux, c'était Jérusalem. Et là, Babylone est venue, les a emmenés à 1000 kilomètres plus loin, très loin dans un autre pays. Et Dieu a dit, bénissez le Babylone. Mais tous les Juifs savaient bien que ce n'était pas leur demeure. Ça, leur demeure, c'était Israël, la Jérusalem. Mais pour nous, comme chrétiens, nous sommes en ce moment, nous vivons à Babylone. La terre, c'est comme comparé à comme Babylone, cette terre étrangère, mais notre chez-soi, notre chez-nous, notre foyer qui nous attend, c'est la Jérusalem céleste. Et lorsque Jésus va revenir, il va nous emmener dans cette nouvelle terre, les nouveaux cieux, nouvelle terre. Et c'est ça, c'est notre chez-nous, ça. Pas ici. Hier, c'était le mariage d'Ariel et Dina Destin, puis j'étais assis à une table avec Jean et tout ça, Jean Destin, puis on parlait un peu du père d'Ariel, comme ambassadeur aux États-Unis, mais un ambassadeur d'Haïti. Et j'ai appris un peu ce qu'il faisait, son travail, tout ça. Et puis, c'est vraiment fascinant d'être ambassadeur, parce que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs ici sur Terre. Nous représentons notre pays. Et c'est ça, dans le fond, c'est que tu n'es pas chez vous, mais tu veux faire du bien où tu restes, comme un ambassadeur, mais tu représentes ton pays. Et c'est ça, les enfants de Dieu, c'est que tu es un ambassadeur, tu représentes le royaume de Dieu. Et l'ambassadeur, c'est qu'à tout moment, tu représentes ton pays, mais à tout moment, tu peux te rappeler chez vous, là, et retourner. Maintenant, il y a un militaire qui a donné une belle vision, qui a expliqué un peu ce passage-là, puis il a donné une belle vision. Il dit, écoute, il dit, du point de vue d'un militaire, lorsque vous êtes déployé dans un autre pays, vous voulez être un ambassadeur dans votre pays en ayant un profond respect pour la nation hôte. Et nous réalisons que nous vivons parmi eux, n'oubliant jamais notre raison d'être. C'est vraiment une belle image, ça décrit très bien le chrétien. Nous sommes des voyageurs. Donc, la lettre de Pierre est un peu le guide du voyageur, parce que nous sommes des voyageurs ici sur Terre. C'est le guide du routard, alors qu'on est des étrangers sur la terre, des voyageurs, et qu'on sillonne les routes de cette terre. Alors, Pierre nous donne deux encouragements à persévérer. Premièrement, nous avons deux raisons à persévérer. Regarde le prix qui a été payé au verset 18. Mon ami, ça a coûté cher, là, faire de toi un enfant de Dieu, là. Verset 18. Vous savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Et ça a coûté cher pour t'emmener là, là. Pas mal cher, le sang de Jésus. Rappelle-toi de ça. Lorsque les temps sont difficiles, tu penses, là, tout d'un coup, tu as une idée, une fausse idée erronée, que Dieu t'a oublié. Attends un peu, là. Est-ce qu'il y a des parents adoptifs qui ont passé à travers tout le processus d'adoption puis qui t'emmènent finalement chez eux après un an et disent « Bon, mais regarde, on va te retourner à l'orphelinat. » Est-ce que Dieu ferait ça? Jamais. Regarde le genre de Dieu. Puis ça a coûté cher. Ça a coûté le sang de son fils. Maintenant, non seulement ça payait cher, regarde le grand prix, mais deuxièmement, ta foi, ton espoir, c'est sur un Dieu qui est vivant. Il l'a prouvé par la résurrection. Verset 21, « Par lui, vous croyez en Dieu. » En d'autres mots, tu ne t'es pas trompé en plaçant ta foi en Dieu, là, le Dieu de la Bible. Pas fait d'erreur. Il dit, « Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Tu ne t'es pas trompé. C'est solide. Vous avez cru dans le Dieu qui a ressuscité Jésus. Et plus de 500 personnes ont vu Jésus ressusciter. C'est un fait indéniable, ça. Alors, ton espoir repose sur un Dieu qui vit en toi, qui va te changer et qui est réel. Quand on regarde ce que Pierre nous dit depuis le début de sa lettre maintenant, on arrive à la conclusion qu'on peut définitivement avoir de l'espoir. On peut avoir de l'espoir dans les moments difficiles. On peut braver la tempête. Pourquoi? Premièrement, notre espoir est ancré dans le passé. Jésus est ressuscité. Verset 5 et verset 21. Deuxièmement, notre espoir se poursuit aujourd'hui dans le présent. Jésus vit. Verset 7. Et notre espoir se complétera dans le futur. Jésus revient. Amen. Ah, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces paroles de 1 Pierre. Et nous voulons braver la tempête de manière à t'honorer. Nous voulons vivre comme notre Père Céleste, nous voulons mener une vie sainte et on sait bien qu'on ne peut pas le faire seul. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous qui veut accomplir cette œuvre de sanctification dans nos vies. Alors, on veut te laisser diriger nos vies, Seigneur. On veut marcher dans cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle vie en Jésus, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Thank you.